Europe Matin. Ombline Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On espère que vous allez bien à l'approche du week-end que l'on espère ensoleillé. On va vérifier ça dans une minute avec Anissa Haddadi. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir de vous retrouver de bon matin. Nous sommes le vendredi 25 mars.
Il est une légende vivante qui, depuis plus de 50 ans, fait rayonner la musique pop britannique à travers le monde.
Elton John, évidemment, qui fête ses 75 ans aujourd'hui, et vous lui consacrerez, Ombline, votre partition à la fin de l'émission à 6h20.
Dans l'actualité, ce 25 mars, Julien.
Une récidive. L'Italie, championne d'Europe de football, n'ira pas à la prochaine Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. La Squadra Azzurra a été éliminée hier soir en barrage par la modeste Macédoine du Nord. C'est un tremblement de terre du côté de Rome. C'est le deuxième mondial consécutif que les Italiens vont manquer. On y revient dans le journal de 5h.
On va également parler écologie ce matin, c'est l'un des thèmes absents de cette campagne présidentielle.
Oui, résultat, on ne sait pas vraiment ce que proposent à ce sujet les différents candidats. Voilà pourquoi le RAC, le Réseau Action Climat, qui regroupe les principales ONG environnementales, a passé au crible les programmes des prétendants à l'Élysée.
Et la conclusion alors ?
Elle est sévère pour l'écrasante majorité des candidats. Imaginez une classe coupée en deux avec d'un côté Yannick et Jean-Luc, les bons élèves, et de l'autre les cancres, Emmanuel, Valérie, Éric et Marine.
On va également évidemment en détailler beaucoup plus en détail cette étude avec l'une de ses autrices, Zoé Lavocat, responsable climat et territoire du réseau Action Climat. Rendez-vous à 6h10.
Et puis trop souvent, hélas, on vous parle ici même d'espèces animales ou végétales qui disparaissent à cause de l'homme. Et bien ce matin, on a envie de vous raconter l'histoire d'une espèce qui revient grâce à l'homme.
Oui, connaissez-vous le gypaète barbu ?
Ah bah oui, évidemment. C'est magnifique.
Oui, un grand rapace.
Oui.
Une espèce de vautour. Quelques années après la réintroduction de plusieurs spécimens dans le massif du Vercors, un couple de gypaètes barbus a pondu une première depuis près d'un siècle dans la région. L'œuf devrait éclore d'un jour à l'autre, exterminé par l'homme. Au début du XXe siècle en France, le gypaète est aujourd'hui protégé. Un oiseau fragile, rare, à la reproduction incertaine. On en parle à 6h moins le quart avec l'un des gardes de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors.
Où l'on ne saute pas à l'élastique, n'en déplaise à Bachung. Vous avez l'essentiel du programme. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Alors vous nous avez annoncé une semaine printanière, donc j'imagine qu'aujourd'hui ça se poursuit.
Et ça se poursuit jusqu'à dimanche, j'en mets ma main. Merci à tous, j'ai l'impression d'être à Bercy. Bon, on a un soleil radieux encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai que ce matin, sur les Pyrénées-Atlantiques et jusqu'aux Pyrénées-Orientales, sur toute la chaîne des Pyrénées, on a quelques petits passages nuageux. Cet après-midi, les nuages deviendront un petit peu plus épais sur les Pyrénées. Et puis dans l'Aude, ce matin, du côté de Narbonne, on a des entrées maritimes très localisées, vous avez l'habitude dans la région, et elles vont se dissiper à la mi-journée. On a toujours du vent d'autant à 60 km/h aujourd'hui, mais partout ailleurs, c'est du grand beau radieux soleil dans un ciel complètement dégagé. Alors comme toute cette semaine, on a des températures un peu fraîches ce matin, moins 4 au Puy-en-Velay, moins 2 à Charleville-Mézières, 0 à Lyon, 3 à Périgueux et à Caen, 7 à Paris et à Nice cet après-midi. La douceur est au rendez-vous, 16 à Boulogne-sur-Mer, 17 à Saint-Étienne, 19 à Paris. Et jusqu'à 22, la maximale pour Brive-la-Gaillarde.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1, il est 5h. Soyez les bienvenus. Que faire si Vladimir Poutine venait à utiliser en Ukraine des armes chimiques, biologiques, voire nucléaires ? Menace prise très au sérieux par les pays réunis depuis hier à Bruxelles pour les sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Nous serons sur place dans un instant. Pendant ce temps-là, en Ukraine, les bombardements se poursuivent, faisant toujours plus de blessés à soigner pour des médecins débordés. Alors pour leur prêter main forte, un docteur lillois s'est rendu à Kiev pendant 10 jours. Il vient de rentrer en France, nous l'avons rencontré. Et puis, la Squadra Azzurra n'ira pas à Doha. L'Italie, championne d'Europe de football, va manquer un deuxième mondial consécutif. Les Italiens ont été battus hier soir par la Macédoine du Nord, direction Rome à la fin de ce journal.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce vendredi 25 mars vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Un seul mot d'ordre à Bruxelles depuis hier. Unité avec l'organisation de 3 sommets pour faire face à la guerre en Ukraine. Sommet de l'OTAN, du G7 puis de l'Union Européenne jusque tard dans la nuit. Les travaux reprennent d'ailleurs ce matin à 9h30. Jacques Serret, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Est-ce qu'on craint sur place, c'est que Vladimir Poutine aille encore plus loin ?
Oui, ce risque est pris très au sérieux. Pour preuve, les membres de l'OTAN ont convenu hier de fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Du matériel de protection et de détection à destination des Ukrainiens, qui sera également livré aux forces armées de l'OTAN postées à l'est de l'Europe. Mais que feraient concrètement les pays de l'Alliance si la Russie utilisait des armes chimiques? La question a été posée à Joe Biden.
Nous répondrons s'il l'utilise. Et la nature de la réponse dépendra de la nature de l'utilisation.
Certes, le président américain ne précise pas quelle réponse serait engagée, mais c'est en tout cas la première fois qu'un membre de l'OTAN suggère une réaction des forces militaires des pays de l'Alliance transatlantique. L'utilisation des armes chimiques serait-elle une ligne rouge à ne pas franchir pour Vladimir Poutine? Emmanuel Macron ne veut pas l'affirmer.
Je serai très prudent sur ce sujet. Nous préparons, nous menons des travaux. Mais je n'expliciterai pas aujourd'hui quelques lignes rouges sur ce sujet.
Le président français assume, je cite, cette ambiguïté stratégique, en espérant que cela dissuade le maître du Kremlin.
Merci Jacques Serret. Et après Bruxelles, deuxième étape européenne pour Joe Biden, le président américain, tout à l'heure en Pologne, à 80 km environ de la frontière ukrainienne.
Joe Biden qui met par ailleurs en garde, les pénuries alimentaires vont se concrétiser.
Des matières premières manqueront en raison de la guerre. Par exemple, la composition de votre paquet de gâteaux préféré risque de changer car les fabricants doivent désormais s'adapter. Maud Descamps, une recette modifiée donc, mais une étiquette conservé.
Oui, l'exécutif fera preuve de souplesse sur l'étiquetage, nous a-t-on indiqué à Bercy. Si à cause de la flambée des prix, un industriel doit par exemple remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de palme dans des biscuits, il devrait, en temps normal, produire une nouvelle étiquette. Mais cela va nous coûter beaucoup trop cher si on doit jeter tous les emballages déjà imprimés pour en fabriquer de nouveaux, prévient un spécialiste de l'agroalimentaire. En d'autres termes, certaines informations pourraient ne pas apparaître sur les étiquettes. Nous sommes en train de définir le cadre, explique-t-on au ministère de l'Agriculture, sans préciser quelles seront les dérogations accordées. Une mesure exceptionnelle, dans un contexte exceptionnel, souligne-t-on, mais qui va à l'encontre des demandes des consommateurs, qui exigent toujours plus de transparence sur l'origine et la composition des produits alimentaires. On risque de se retrouver avec des produits de moins bonne qualité, estime un spécialiste de la grande distribution, mais aussi avec des prix plus élevés.
Merci Maud Descamps. Et puis un exemple de cette flambée des prix des matières premières, le prix de l'huile de tournesol a doublé depuis le mois de janvier.
Et à Kiev, dans la capitale ukrainienne, les habitants ont été appelés à sceller leurs fenêtres pour les protéger puisque les bombes pleuvent.
Des bombes qui blessent, qui tuent et des médecins qui manquent. Alors pour les aider, Arsène Sabaniev, un jeune docteur lillois franco-ukrainien, est venu à Kiev pendant 10 jours. Sur le terrain, il a pu évaluer les besoins de cette médecine de guerre pour pouvoir mieux revenir dans les prochains jours avec du matériel médical adapté. Notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot, l'a rencontré.
De ses séjours dans les hôpitaux de Kiev, Arsène Sabaniev a rapporté quelques photos qui témoignent de l'urgence à venir en aide aux médecins ukrainiens qui pratiquent tous les jours une médecine de guerre.
Pour moi, c'est assez choquant parce que là, vous voyez, les chirurgiens, ils n'ont pas de casque stérile. Les champs opératoires, il n'y en a pas. Le respirateur d'anesthésie, il n'y en a pas. Donc, c'est des respirateurs de réanimation, ce qui n'est pas du tout prévu pour. Donc, voilà, c'est la médecine de guerre. On fait vraiment avec ce qu'on a.
Alors, après avoir évalué les besoins précis de ses confrères ukrainiens, le jeune médecin lillois repartira dans les prochains jours avec des médicaments, des fixateurs externes de fractures, des bistouris électriques, mais aussi de très précieux kits de secours pour les combattants ou les civils pris sous les bombes.
Ils contiennent en fait ce qu'il faut pour stopper une hémorragie massive, c'est la première cause de décès dans une zone de guerre.
L'hôpital lillois où il travaille a débloqué une enveloppe de 50 000 euros pour soutenir son initiative, mais le docteur Sabaniev espère bientôt amplifier son effort de solidarité.
Il y a du matériel dont on n'aurait pas pensé l'utilité, par exemple des ambulances blindées. Il nous faut des ambulances blindées, ça paraît complètement aberrant d'avoir ça en Europe, et il faut les protéger parce que sinon les soignants qui sont à l'intérieur sont mitraillés, mais ils ont beaucoup de courage.
Un courage, mais aussi une détresse face à laquelle le jeune médecin franco-ukrainien refuse de rester les bras croisés.
Lionel Gougelot.
À presque 2 semaines du premier tour de la présidentielle, un habitué de la course à l'Élysée sillonne la France pour faire entendre sa voix et en récolter.
Surtout en récolter. Hein. Il s'agit de Philippe Poutou, 3e campagne présidentielle pour le candidat du nouveau parti anticapitaliste. En 2017, il avait recueilli un petit peu plus d'1% des voix. Cette année, il compte bien faire mieux et pour ça, il prend la route avec un arrêt hier à Marseille devant 400 personnes.
Soyez pas surpris, on va appeler à voter pour nous. Hein. Parce qu'en fait, on vient pas juste comme ça pour parler, pour se montrer à la télé. Enfin, on a envie de convaincre, voilà. Et on pense qu'en fait, l'importance de voter pour nous, c'est pas nous faire gagner. On est trop loin de l'objectif, on est un peu lucide quand même. Mais si on fait 1 million de voix, par exemple, hein, plus on fait, plus ce qu'on dit, ça sera marquant. On pense que c'est important de marquer le plus possible à gauche. Alors, c'est con de dire ça comme ça, mais en tout cas, d'être le plus radical possible et d'oser dire que ce monde-là, il faut le changer profondément, que ce monde-là, il est insupportable, qu'il faut le renverser. Nous, on ne dit pas qu'on est le vote utile, mais on pense qu'il y a une utilité à voter pour nous. Nous, notre vote utile, c'est justement de dire que la révolution, elle est forcément dans la rue. Elle est forcément dans les grèves, dans les occupations, dans les ZAD. C'est là où on peut faire la révolution. C'est aussi une question qu'on a besoin de reconstruire un outil politique qu'on n'a plus. Et on veut servir à ça, en fait. Donc, notre vote, c'est tout ça.
Le meeting de Philippe Poutou, auquel a assisté notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat. Chez les Républicains, coup dur pour Valérie Pécresse, la candidate testée positive au Covid, indique qu'elle poursuit sa campagne à distance.
Du football, voyage en Italie et Paris réussi pour la Macédoine du Nord.
Elle a battu à la surprise générale la Squadra Azzurra, championne d'Europe à Palerme, 1-0 en barrage pour le Mondial. Scénario dramatique pour l'Italie qui va rater pour la deuxième fois de suite la Coupe du Monde de football. Le reportage à Rome de notre correspondant Antonino Gallofaro.
Les dernières minutes sont insupportables. Non, rien n'y fait. L'Italie est battue par la Macédoine du Nord. Ces quatre jeunes regardent leur verre vide, chacun perdu dans ses pensées.
Senza parole.
Je suis sans voix, c'est inattendu, à la dernière minute. Ça ne devait pas arriver. C'est une catastrophe. Sportive, mais aussi sociale.
Anche sociale.
Matteo peine à s'exprimer, ses amis tentent de l'aider.
Nous sommes un peuple. Oui, exactement, champion d'Europe. Un peuple qui se base sur le football.
Non, vraiment, il ne sait plus quoi dire, tant la défaite est amère. Ce n'est pas le cas de Lorenzo, remonté à bloc.
Des joueurs qui prennent des millions ne peuvent pas perdre contre la Macédoine. Ils ne savaient même pas il y a quelques jours qu'ils avaient une équipe nationale de football. C'est une honte.
La réalité est difficile à digérer ici. Comme il y a 4 ans donc, l'Italie déserte à nouveau une Coupe du Monde de football. Rome, Antonino Gallofaro, Europa.
Et ce soir, autre match de foot, mais amical, la France reçoit la Côte d'Ivoire. Ce sera au Stade Vélodrome de Marseille, coup d'envoi à 21h15. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.
Évidemment, c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
À 5h09 sur Europe 1, les courses de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 210, Gaspard Dangy. Facile lauréat de ses deux dernières sorties à Agen le 16 février, puis le 16 mars à Enghien, il se présente ici avec de solides arguments afin de réaliser la passe de 3. Associé au crack driver Gabriele Gelormini, avec lequel il s'entend à merveille et évoluant ce soir sur un parcours de tenue en parfaite adéquation avec ses aptitudes, il devrait pouvoir ainsi justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Alors notez bien pour Vincennes, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 10, Gaspard Dangy.
Merci beaucoup Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil, bienvenue à ceux qui lèvent une paupière et qui tendent l'oreille, c'est le pressing. Et nous sommes rejoints par Martin Lange, bonjour.
Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux comme chaque matin, une assez similaire. Aujourd'hui, les entreprises françaises dans le bourbier russe, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Les entreprises françaises dans le piège russe, ajoute Le Figaro, alors que la situation devient de plus en plus compliquée pour les sociétés tricolores, pointées du doigt en début de semaine par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comme Renault, le cauchemar russe, peut-on lire en une des échos. Sous la pression, le constructeur a suspendu la production de son usine à Moscou, un énième coup dur pour la marque aux losanges. Ombline, on commence avec vous. Quel article avez-vous retenu dans la presse ce matin?
C'est le Figaro qui raconte la mésaventure d'Arnaud C. Arnaud C. est fumeur. Et depuis quelques mois, il a pris l'habitude de rouler ses cigarettes avec un petit peu de CBD à l'intérieur. Rappelons que le CBD, appelé aussi chanvre bien-être, est un dérivé du cannabis dépourvu de THC, une substance psychotrope interdite en France. Si le cannabis est considéré comme un stupéfiant, le CBD, lui, et légal. Retrouvons donc notre protagoniste qui monte en voiture avec sa cigarette au CBD. Il roule fenêtre ouverte. On est dans le sud-ouest, hein, il fait doux ce jour-là. Mais voilà, Arnaud C. croise des gendarmes qui sentent la fumée provenant de la cigarette. L'odeur du CBD et celle du cannabis sont identiques. Arnaud C est soumis à un contrôle, essaye de convaincre la maréchaussée qu'il ne s'agit là que de CBD, facture de buraliste à l'appui, et non de cannabis, il ne se drogue pas. Les gendarmes, évidemment, ont besoin de preuves. Alors, il pratique le réglementaire test salivaire. À la grande surprise d'Arnaud C, c'est le début de son nom de famille, hein, vous avez compris.
Ah oui, un petit peu, oui.
Le test est positif. Non, mais ça aurait fait un prénom bizarre sinon. Le test est positif, donc, de son test salivaire. Un deuxième test salivaire est envoyé en laboratoire et les forces de l'ordre proposent à l'automobiliste d'effectuer une prise de sang. Mais selon le conducteur, les gendarmes ont tout fait pour l'en dissuader, dit-il. Trop cher, il devra débourser 500 euros. Faux, hein. L'État avance et ne demande pas de remboursement en cas de relax. Trop contraignant aussi, alors donc Arnaud C refuse le test sanguin. Erreur. Le deuxième test salivaire revient positif. Lui aussi, Arnaud C écope de 6 mois de suspension de permis. Il risque 4500 euros d'amende, 2 ans d'emprisonnement et une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans. Sur les bons conseils de son avocat, le conducteur va présenter aujourd'hui au tribunal un test capillaire qui montre bien que le taux de THC mesuré dans les cheveux est très faible. Ses résultats confirment qu'il n'a pas consommé de substances illégales, mais bien du CBD légal. Morale de l'histoire, il y a un problème de fiabilité avec les tests salivaires pratiqués par les forces de l'ordre pour détecter une consommation de cannabis. Seuls les tests sanguins semblent être une preuve suffisante pour engager ou non des poursuites pénales. À méditer, c'est dans le Figaro.
Arnaud C, donc.
Arnaud C, ouais.
Comme cannabis. Ou chichon.
On espère que ça va aller pour lui aujourd'hui.
Bah oui, effectivement.
Bon, en tout cas, s'il est une santé.
Bah, c'est ce qu'on lui souhaite. Merci voilà. Beaucoup. Omblin. Martin, vous écoute.
Oui, avec une disparition ce matin, celle d'un Américain, Stephen Willite. Son nom ne vous dit sûrement rien, et pourtant, je pense que vous utilisez son invention tous les jours, notamment sur la page Facebook de cette matinale. Ah. Stephen Willite, c'est l'homme à qui l'on doit les Graphics Interchange Format, le format graphique novateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? Eh bien, c'est le GIF, vous savez, hein, ces GIF. Images animées et en boucle que l'on joint à son texto ou à son message WhatsApp. Les plus populaires, hein, ce sont des chats tout mignons, mais il y a aussi des scènes de films cultes ou encore des GIFs politiques. Tout un catalogue de références visuelles, hein, que vous envoyez pour décrire vos émotions.
Alors, est-ce que c'est récent le GIF, Martin?
Eh bien, pas tant que ça, ah puisque bon Stephen Willite a créé le premier en 1987, hein, il y a plus de 30 ans. C'était une image en boucle d'un avion parcourant le ciel et il n'imaginait probablement pas que son invention, hein, deviendrait si populaire. D'ailleurs, au départ, le GIF est réservé aux initiés, hein, les précurseurs de l'Internet, encore balbutiants à la fin des années 80. L'objectif de Willite, c'est de créer des images simples et légères pour les ordinateurs. Par exemple, une enveloppe qui file dans une boîte aux lettres pour un envoi de mail.
Ah bah oui, bien sûr.
Une image qu'on a tous vue sur nos bons vieux Windows. Mais au début du 21e siècle, l'apparition de nouvelles plateformes comme MySpace ou Tumblr, aujourd'hui tombées dans l'oubli, hein, mais qui étaient en quelque sorte les ancêtres de nos réseaux sociaux, eh bien ces plateformes vont donner un coup d'accélérateur au GIF. Les internautes s'en donnent à cœur joie, ils parlent de leur vie privée, échangent, discutent, et le GIF est un de leurs moyens d'expression favoris, un phénomène qui s'est encore démocratisé avec l'apparition de Facebook et de WhatsApp. Dans le portrait que Libération consacre à Willite, le journal compare d'ailleurs son invention à Frankenstein, la créature qui a échappé à son maître. Et puis dans une réflexion plus philosophique, le journal note que le GIF a remis au goût du jour une vieille obsession de l'être humain, celle de contrôler le temps. Et quoi de mieux que ces personnages qui exécutent le même geste à l'infini pour toucher du doigt cette idée. Stephen Willite nous a quitté la semaine dernière à l'âge de 74 ans et son portrait, un GIF inanimé, est à retrouver sur le site de Libération.
Merci beaucoup Martin.
On est très heureux de connaître ce monsieur.
On a appris des choses.
Ben oui.
J'ai choisi pour ma part un article du Point qui nous emmène ce matin au Royaume-Uni et plus précisément à Buckingham Palace où depuis quelques mois la reine Elisabeth II traîne un spleen tenace. C'est en tout cas ce que rapportent les plus fins connaisseurs de la monarchie britannique. The Queen n'a en effet pas été épargnée ces derniers temps. On pense évidemment à la perte de son mari, le prince Philippe, il y a bientôt un an. Mais il y a aussi la disgrâce de son fils, Andrew, sans oublier le Covid et quelques soucis de santé qui ont fini d'isoler la souveraine de 95 ans dans son immense palais. Ce sont d'ailleurs ses soucis de mobilité qui sont à l'origine de sa dernière contrariété. La reine a interdiction désormais de promener ses quatre chiens, l'un de ses moments de détente préférés. Ses médecins craignent en effet que le monarque ne fasse une chute provoquée par ses incontrôlables boules de poils, principalement des corgis. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette race de chiens originaire du Pays de Galles. Ce sont de petits toutous avec des pattes minuscules, très joueurs et énergiques, de vrais piles électriques qui habituellement suivent la reine partout du matin au soir. Candy, Willow, Holly et Nessie, ce sont les petits noms des poilus, participent même au déjeuner organisé en petit comité avec des personnalités de tous horizons. La souveraine n'hésite pas à interrompre ses conversations avec ses invités pour parler à ses chiens ou leur donner sous la table quelques friandises spécialement cuisinées dans les Royal Kitchen. Il arrive d'ailleurs que la nourriture des toutous se mélange à celle des humains. Alan Johnson, un ministre travailliste qui était invité à déjeuner à Windsor, a par exemple mangé par mégarde un biscuit destiné au corgi qui avait été placé par mégarde parmi ceux proposés pour agrémenter le fromage. Le goût était inhabituel, a déclaré le ministre avec grand tact. La présence des chiens permet aussi parfois de briser la glace. C'est ce qui s'est passé pour David Nutt, par exemple un chirurgien militaire traumatisé par les horreurs de la guerre. Il est resté totalement muet face à la reine jusqu'à ce que cette dernière l'invite à nourrir ses corgis adorés. Tellement adorés qu'après chaque séance d'essayage, Elisabeth II ramasse elle-même les épingles tombées par terre pour éviter que ses petits chéris ne se blessent. La reine fait d'ailleurs régulièrement preuve de plus d'empathie pour le monde canin que pour celui de ses semblables. Elle est capable d'envoyer de longues lettres de condoléances écrites à la main à l'occasion de la mort d'un chien, alors qu'elle a du mal à rédiger un petit mot de réconfort pour un filleul tombé gravement malade. Un ancien collaborateur en a fait, on va dire, la mère expérience. La souveraine est restée sourde aux lettres qu'il lui a envoyées pour lui exposer de graves problèmes familiaux. Elle a en revanche pris longuement sa plume pour le consoler du décès de son labrador empoisonné à la mort au rat. Enfin, aux yeux d'Elisabeth II, ces petites créatures poilues sont au-dessus de tout soupçon. Quand un corgi mord un valet ou un conseiller, c'est forcément parce que la victime lui a fait peur. Pour se venger d'une morsure, un majordome a un jour versé du gin et du whisky dans l'écuelle des chiens. Résultat, les roquets totalement sous ont titubé et uriné sur les tapis rouges et les tentures blanches. Autant vous dire que la reine a fait congédier sur le champ le coupable du crime de lèse-majesté. Elisabeth II, une cynophilie contrariée, c'est un article savoureux à lire sur le site du Point.
Holly.
Merci beaucoup à notre réalisateur Fabrice Lafitte.
Il y a Candy, Willow, Holly et Lissie, et qui ne sont plus promenés par leur maîtresse. Oui, quelle tristesse.
De voir un promeneur.
Je ne me fais aucun souci pour eux. Je pense que ce sont les chiens les plus heureux au monde.
Merci beaucoup, Julien. Et merci, Martin. On vous retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, les principaux titres avec Alban Le Prince.
À Bruxelles, 3 sommets de l'OTAN, du G7 en présence de Joe Biden et de l'Union Européenne. Et pour la première fois, le président américain a promis une réponse de l'OTAN si Vladimir Poutine venait à utiliser des armes chimiques en Ukraine. Aujourd'hui, réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, conséquence du tir d'un missile balistique par la Corée du Nord. Missile arrivé jusque dans la zone maritime économique exclusive du Japon. En Corse, le village de Cargèse va enterrer à 15h aujourd'hui Yvan Colonna et hier Gérald Darmanin a réagi à la mise en berne des drapeaux sur l'île de Beauté après la mort de l'assassin du préfet Erignac. C'est une sorte d'insulte à l'État français et à la famille. Erignac a dénoncé le ministre de l'Intérieur. Et puis du foot à suivre ce soir sur Europe 1. France, Côte d'Ivoire, rencontre amicale depuis le stade Vélodrome de Marseille. Coup d'envoi 21h15.
Très bon réveil à tous avec les initiatives en France. À présent, notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Alexis Richard.
Bonjour Julien, merci beaucoup de me recevoir.
Et merci à vous d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur de Monvel, une jeune entreprise qui développe un outil indissociable des week-ends ensoleillés comme celui qui arrive. Je veux parler bien sûr du barbecue, mais le vôtre est différent de ceux que l'on a l'habitude d'utiliser dans nos jardins. Expliquez-nous.
Alors absolument. Aujourd'hui, les Français sont principalement équipés de barbecue à charbon et de barbecue à gaz. Et il y a une nouvelle technologie qui est en train de faire fureur aux États-Unis, qui sont les barbecues à granulés de bois. Donc c'est la même chose qui est utilisée pour le chauffage, par exemple, en France. Et ces barbecues-là sont extraordinaires, puisqu'ils allient à la fois une simplicité d'utilisation maximale, puisque vous tournez un bouton et toute la partie gestion du feu est automatisée par le barbecue, et en plus, un goût de feu de bois super, que vous pouvez varier en fonction des bois que vous choisissez pour votre barbecue.
Oui, parce que ces granulés de bois, ils ont une double fonction, c'est-à-dire qu'ils font à la fois office de combustible, mais aussi ils parfument, entre guillemets, le produit que l'on cuit.
Exactement. C'est un petit peu comme le café, les capsules de café. Vous avez des ristretto, des lungo, et sur le bois, c'est pareil. Donc nous, chez Monvel, on a par exemple des granulés de hêtre qui est le bois de fumage européen un petit peu traditionnel. Par exemple, le saumon fumé, c'est fait avec du bois de hêtre. Et donc, c'est un bois qui va être assez doux, apporter une couleur un petit peu dorée à vos aliments. Et on fait de l'autre côté du spectre du sarment de vigne, qui est beaucoup plus puissant, un petit peu terreux. Et entre les deux, par exemple, du chêne, qui va être un bois un petit peu sur le cuir, un petit peu plus fort, un petit peu plus rond. Et donc, c'est ça qui est vraiment super. Vous allez pouvoir, en fonction de ce que vous cuisinez, sélectionner le meilleur bois pour parfumer vos aliments. On appelle ça, nous, l'accord mets bois, comme vous avez l'accord mets vin. C'est nouveau dans le barbecue.
Et ces granulés, on pourra les commander directement auprès de vous, parce qu'on ne peut pas les trouver comme ça dans le commerce?
Absolument. Vous pourrez trouver les granulés Montvel sur notre site internet avec une livraison extrêmement rapide dans toute la France. Et on va également être distribué chez les principaux magasins spécialisés dans le barbecue, où vous avez l'habitude de vous procurer ces granulés.
Alors revenons un instant à votre barbecue. Comment est-ce qu'il fonctionne concrètement?
Alors concrètement, notre barbecue, il est branché au courant déjà, donc plutôt proche de votre cuisine où il faut une prise électrique. Et ensuite, ça s'utilise de façon extrêmement simple. Donc vous avez un réservoir dans lequel vous mettez des granulés de bois. Voilà. Ensuite, vous choisissez la température à laquelle vous voulez que votre barbecue aille, donc exactement comme sur un four. Et ensuite, une fois que vous avez choisi ça, le système automatique du barbecue, donc électronique et mécanique, se met en route et il va acheminer la bonne quantité de granulés de bois vers le creuset, donc qui est l'endroit où il va y avoir les flammes. Il va allumer ces granulés-là, envoyer de l'air, et ensuite, tout au long de la cuisson, il va emmener la bonne quantité de granulés et la bonne quantité d'air pour que vous mainteniez la bonne température que vous avez choisie. Donc toute la partie gestion feu est automatisée par le barbecue.
Donc si je comprends bien, il n'y a absolument aucun risque que les flammes entrent en contact avec la viande ou autre, ou le poisson?
Absolument. C'est fini les saucisses carbonisées. Coluche disait le barbecue permet de manger des saucisses presque crues avec des doigts bien cuits. Avec le barbecue Montvel, enfin vous aurez des doigts qui restent crus et vous pourrez plus carboniser vos aliments comme c'est souvent le cas sur les barbecues à charbon. Et donc c'est bien meilleur pour la santé. Et d'ailleurs, les granulés de bois sont neutres en carbone puisque c'est fabriqué à partir des déchets de l'industrie du bois. Et donc passer du charbon ou du gaz, ils sont évidemment très polluants, aux granulés, c'est aussi un geste écologique, un geste gastronomique et un geste écologique.
Mais vous pensez malgré tout que les Français sont prêts à troquer leur barbecue au charbon de bois pour ceux à granulés? Il y a un marché selon vous?
Alors absolument, le marché on est encore au tout début. Ça fait que quelques années que ce type de technologie est disponible sur le marché français. Il a fallu 5-6 ans aux États-Unis pour que vraiment ça explose. Là, on est au début de la croissance très rapide en France. Aujourd'hui, on discutait avec les spécialistes du secteur, s'attendent à ce que les ventes de barbecue à granulés soient au moins multipliées par 2 cette année, entre x2 et x4. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Et une statistique pour expliquer cela, c'est que sur 10 personnes qui achètent un barbecue à granulés, 9 personnes rachèteront un barbecue à granulés la prochaine fois. Donc il y a vraiment un effet où les produits sont tellement supérieurs au reste qu'en fait vous passez pas à autre chose. Et moi c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai acheté pour la première fois un barbecue à granulés. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je pourrais jamais repasser à autre chose? Comment ça se fait que j'en avais pas avant? Comment je pouvais faire avec du gaz et du charbon?
Et justement, quand est-ce qu'on pourra s'offrir l'un de vos barbecues?
Alors notre barbecue va sortir à l'été 2023, donc dans à peu près un an. Mais dès cet été, dès le mois de juin, vous pourrez le précommander sur notre site internet et venir le voir dans nos bureaux à Paris, dans notre showroom à Paris. Et d'ailleurs, Julien, je vous invite cet été pour le meilleur barbecue de votre vie dans nos bureaux.
Bah c'est noté, je ne manquerai pas l'occasion. Merci beaucoup Alexis Richard de nous avoir présenté Montvel, le futur meilleur barbecue au monde, barbecue au granulé de bois. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
Merci Julien, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h28, bon réveil avec Europe 1, à suivre le journal de Christophe Lamarre où l'on ira notamment en Norvège où s'entraînent dans la neige nos militaires. Et puis une respiration salutaire est nécessaire grâce à cette excellente nouvelle pour la biodiversité.
Oui, carnet rose chez le gypaète barbu dans le massif du Vercors. Le gypaète, c'est l'un des plus grands rapaces d'Europe, l'un des plus rares. Et bien un couple d'oiseaux a pondu un œuf quelques années après sa réintroduction, une première dans la région depuis presque 100 ans, depuis son extermination. Donc nous serons dans un quart d'heure avec l'un des gardes de la réserve naturelle, accéder au plateau du Vercors.
Et puis votre prescription culture, le vendredi c'est musique. It's exactly why I stay.
Le nouvel et huitième album de Placebo, il sort aujourd'hui et c'est le choix de Stéphanie Loire à 6h10.
Alors c'est un peu moins rock'n'roll comme musique pour accompagner la météo, Anissa Haddadi, mais le soleil
c'est
est là pour nous conseiller.
Voilà. Quoique le rock, ça peut être ensoleillé aussi. Alors le soleil, vous le disiez, il va briller aujourd'hui toute la journée et ça va commencer dès le lever du jour à 6h44 pétante. Ah. Le soleil apparaît. Il se couchera à 19h11. Avant, je vous le rappelle, de changer d'heure ce week-end là. Ce
ah
week-end.
Oui, c'est vrai, on perd une heure de sommeil.
On avance, de dodo, moi, voilà. Ouais. On avance la pendule. Oui. En avril, on avance. En octobre, on recule. Sa mémotechnique. Ah. Bref, j'embrasse ma grand-mère. Sur les Pyrénées, ce matin, nous avons un léger voile nuageux entre les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales. Les nuages deviendront un petit peu plus épais hein, sur la chaîne pyrénéenne cet après-midi. On a toujours du vent d'autant à 60 km/h. Ça souffle un peu moins fort que ces derniers jours. Et puis sur l'Aude, sur le littoral du côté de Narbonne, on a des entrées maritimes ce matin, mais qui vont très vite se dissiper. Alors on se couvre parce qu'on a moins 7 à Barcelonnette, moins 2 à Manosque, moins 1 à 3, 4 degrés à Lille et Marseille, 7 à Bordeaux et Paris et 9 à Dunkerque. Cet après-midi, la douceur est au rendez-vous comme ces derniers jours. 15 à Cherbourg, 17 à Nice et Montpellier, 19 à Biarritz et à Paris et 22 à Brive-la-Gaillarde.
La bise à Mamie Haddadi. Merci beaucoup Anissa. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce vendredi, l'OTAN qui réaffirme son soutien à l'Ukraine mais n'enverra pas de troupes sur son sol, une ligne rouge que le président Macron ne veut pas franchir. Hasard du calendrier, l'Alliance Atlantique est en pleine manœuvre en Norvège. 30 000 hommes mobilisés dont 3 000 soldats français s'entraînent en milieu grand froid. Reportage dans ce journal. Et puis la suite du procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises a reconstitué les 4 derniers jours qui ont précédé les attaques sur Paris et Saint-Denis.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Le marathon diplomatique prendra fin aujourd'hui avec la suite de la réunion du sommet européen. Hier, les membres du G7 et de l'OTAN ont promis d'allonger la liste des sanctions à l'encontre de la Russie. Les Européens sont plus prudents, notamment en raison de leur dépendance au gaz et au pétrole russe. Le président américain Joe Biden a toutefois prévenu Vladimir Poutine. En cas d'attaque chimique sur l'Ukraine, il y aura une réponse de l'Alliance.
Arrêter la guerre sans la faire, ça reste malgré tout le leitmotiv des Occidentaux, ça n'empêche pas l'OTAN de poursuivre ses manœuvres.
Hasard du calendrier, l'Alliance Atlantique a entamé un exercice grandeur nature en Norvège. Plus de 30 000 soldats, dont 3 300 Français mobilisés dans le grand froid norvégien. Cold Response, c'est le nom de cette opération. Caroline Baudry a suivi l'entraînement de ses militaires dans les forêts au nord d'Oslo. Reportage.
Fusils en bandoulière, les chasseurs alpins glissent à ski entre les sapins. Ils patrouillent, rejoignent leur poste. Tristan est tireur d'élite. Dans son treillis blanc, il reste immobile dans la neige.
Les petits trucs et astuces pour durer dans le temps, dans le froid, je coupais des branches de pin et les étaler sur le sol pour faire une couche isolante entre notre corps et le sol.
Sous son casque, il garde l'œil rivé dans la lunette de son fusil. À 23 ans, c'est son premier exercice avec l'OTAN.
C'est pas pareil, on a des grandes forêts ici. C'est assez difficile d'avoir des grands découvertes, alors qu'en montagne, selon l'étage alpin, on arrive à avoir des zones très très découvertes.
Jour et nuit, son équipe guette l'ennemi, simulé par la Norvège dans cet exercice grandeur nature.
Donc, ce qui veut dire qu'on a un gros effort de coordination à faire, à la fois avec la 4 sur les hauteurs, mais également avec les Polonais qui seront de l'autre côté du lac.
C'est le capitaine Antoine, debout, fiche à la main, qui donne les ordres face aux adjudants.
Cet exercice, il prend une résonance aussi particulière, dans le sens où on se dit ça nous donne un contexte réaliste, et aussi que l'actualité nous aide à mieux appréhender cet exercice et à le faire de manière plus sérieuse.
Le capitaine rappelle que certains de leurs camarades ont été déployés en Roumanie et en Estonie pour renforcer le flanc est de l'Alliance militaire. Arena, en Norvège, Caroline Baudry, Europe 1.
Des soldats de l'OTAN, il y en a aussi le long de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Redéploiement préventif, ils recevront la visite de Joe Biden. Après Bruxelles hier, le président américain doit se rendre en Pologne aujourd'hui, dernière étape de son voyage en Europe.
L'ONU qui exige la fin immédiate de la guerre en Ukraine, résolution adoptée à une écrasante majorité. Sur le terrain, les combats se poursuivent.
Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, allié de Moscou, annonce la prise de la mairie. Vrai ou faux, la vidéo publiée à cette occasion montre un bâtiment officiel situé à la périphérie de la Cité Porter, effectivement occupée par les troupes tchétchènes.
La campagne pour l'élection présidentielle, 5 candidats ont débattu sur France 2 hier soir.
Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Jean Lassalle et Nathalie Arthaud en plateau, Valérie Pécresse en visioconférence pour cause de tests Covid positifs. Plusieurs sujets abordés, dont celui des retraites, alors que plusieurs manifestations sur ce thème avaient lieu hier un peu partout en France. À partir à 65 ans, comme le promet le candidat Macron, ou 60 ans, Jean-Luc Mélenchon demande aux électeurs français de trancher.
S'ils veulent la retraite à 60 ans, je leur conseille de voter pour moi, puisque je le propose. S'ils veulent la retraite à 65 ans, eh ben ils votent pour M. Macron. Voilà. Personne n'est obligé de partir à la retraite à 60 ans, mais si on veut partir à la retraite à 60 ans, il n'y a pas d'autre solution que de voter pour moi. La vie et le social a un effet purificateur. Enfin, on parle de choses qu'on maîtrise. 40 ans de cotisation, vous partez à taux plein. Écoutez, si vous avez une carrière complète, même si ce n'est pas le niveau que vous devriez atteindre, vous aurez tous 1400 euros, c'est-à-dire le SMIC. Pourquoi ? Parce que la retraite, c'est un salaire différé. Ce n'est pas un cadeau, une faveur que fait l'État. Vous cotisez pour ceux qui sont à la retraite l'année où ils partent à la retraite.
Jean-Luc Mélenchon hier soir dans l'émission Élysée 2022 sur France 2.
Et dans les intentions de vote, Emmanuel Macron poursuit sa course en tête devant Marine Le Pen.
Il obtiendrait 28% selon un sondage Opinionway devant Marine Le Pen qui atteint 20%. Elle distance largement son rival Éric Zemmour, crédité de 9%. Marine Le Pen qui tend la main aux électeurs de Reconquête. Je souhaite qu'ils nous rejoignent si je suis au second tour.
On en vient à la suite du procès des attentats du 13 novembre. La course d'assises spéciale s'est plongée dans les 4 derniers jours qui ont précédé l'attaque.
Les magistrats se sont appuyés sur le travail des policiers belges. Une enquêtrice a raconté les ultimes préparatifs, l'allocation de la voiture, le départ du commando vers la France. Tout y est détaillé. Gladys Laffitte a commencé par le rôle joué par le principal accusé, Salah Abdeslam.
Oui, la cour découvre ses activités, notamment sur des images de vidéosurveillance, comme celle où l'on voit Salah Abdeslam, casquette vissée sur la tête, recharger sa carte de crédit, accompagné de Mohamed Abrini, son ami d'enfance. Ensemble, et avec cet argent, il loue 2 voitures, Brahim Abdeslam, une 3e. Lui va se rendre le 10 novembre en France avec Mohamed Abrini, louer une cache à Bobigny. Et le lendemain, Salah Abdeslam, et toujours Mohamed Abrini, en loue une 2e en région parisienne. Sur le trajet, le dernier membre vivant des commandos aurait dit à son acolyte que des gens allaient se faire exploser et que ça allait partir en cacahuète. Effectivement, le 12 novembre, ce que Mohamed Abrini appellera plus tard le convoi de la mort prend la route pour Paris, 3 voitures avec à l'intérieur les futurs terroristes. En chemin, il s'arrête à des stations-service. Là aussi, les vidéosurveillances fichent des scènes d'un banal qui fait froid dans le dos a posteriori. Les 3 copains de Molenbeek, côte à côte, vont payer l'essence. Ou encore, l'un des tueurs du Bataclan achète 4 oasis et un paquet de frangipane, comme si de rien n'était.
Gladys Laffitte, en Corse, on se prépare à l'inhumation d'Ivan Colonna cet après-midi à Cargèse. Plusieurs associations nationalistes ont appelé à une journée île morte. Certaines boutiques baisseront le rideau aujourd'hui en signe de deuil. Une manifestation prévue dimanche à Ajaccio a d'ailleurs été annulée. Calme trompeur avant la tempête, redoute un élu local ce matin dans Aujourd'hui en France, le Parisien.
Le foot et ce choc, l'Italie n'ira pas au Mondial.
Les champions d'Europe en titre se sont inclinés 1-0 hier soir face à la Macédoine. Pas de Coupe du Monde au Qatar pour l'Italie. 2e échec consécutif pour la Squadra Azzurra, puisqu'elle avait déjà raté le Mondial 2018 en Russie. La France y sera et elle entame sa longue préparation avec 2 matchs amicaux pour commencer. Le premier ce soir face à la Côte d'Ivoire. Coup d'envoi à 21h15 à Marseille. Enfin, attention si vous prenez les transports en commun à Paris. Trafic bus très perturbé et des tramways seulement aux heures de pointe. Circulation normale sur les RER A et B. Quasi normale dans le métro. Conséquence d'une grève des agents pour dénoncer l'ouverture à la concurrence.
On termine ce journal en musique avec la sortie du nouvel album de Corneille.
Il revient après une longue parenthèse. Le franco-canadien publie Encre Rose, un 9e album beaucoup plus optimiste. Naïm Benchemann.
Encre Rose de Corneille est une ode à l'amour qui fleure bon la soul américaine, et cela faisait longtemps que l'artiste rêvait de faire un album avec ses sonorités.
Musicalement, un retour en enfance, puisque aussi loin que je puisse me rappeler, la soul R&B des années 80 est probablement la musique que j'ai le plus entendue en toile de fond. Donc pendant longtemps, j'ai entretenu ce petit rêve.
Plus je parle, moins je dis des choses, à sauver mes causes, on perd du temps.
Un nouveau Corneille, plus en paix avec son passé douloureux, lui l'orphelin exilé qui dans son adolescence a été marqué au fer rouge par la guerre civile du Rwanda.
Il faudra beaucoup. Pour gagner la guerre, il faudra beaucoup d'amour pour gagner.
parle de l'idée de se réconcilier avec le passé. Le passé est têtu, il fait ce qu'il a à faire et il ne nous quitte jamais. Apprendre à vivre avec, s'affranchir du mauvais, le quitter avec amour.
Dans ces temps troublés par la guerre en Ukraine, le cri du cœur à l'encre rose de Corneille résonne encore plus fort.
Chez nous, c'est chez vous, et c'est un nouveau monde.
Naïma Benchemann, Encore Rose, le nouvel album de Corneille sorti aujourd'hui.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne à Vincennes que va se courir ce Quintet. Et parmi les 13 partants, j'ai choisi le numéro 1, Harlem de Bussy, le trotteur le moins riche, mais certainement pas le moins doué de ce Quintet. Il est visiblement en plein épanouissement, et comme il évoluera pieds nus pour la première fois de sa carrière, il me semble être ici un bon favori. On lui opposera les numéros 6, Hamilton Duham, qui reste sur 3 probantes performances à Vincennes, 7, Hôtel Mystique, avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse, et 13, High Fire d'Herpé, qui enchaîne les bonnes performances et qui se retrouve une nouvelle fois idéalement engagé. Enfin les numéros 8, Hercule Madric, 5, Iguen de Loup, 3, Hold Up Dream et 10, Hollywood Dubois compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 6, 7, 13, 8, 5, 3 et 10.
Des pronostics que vous retrouvez dès maintenant sur europe1.fr, vous le savez. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et ce vendredi a lieu partout dans le monde un appel à faire des grèves mondiales pour le climat. Un appel aux jeunes générations à ne pas aller au lycée ou à l'université pour dénoncer le manque d'action politique en matière climatique. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Laure, ces grèves mondiales ont été initiées par la jeune Suédoise Greta Thunberg.
Oui, la première fois qu'on voit Greta Thunberg, c'est en 2018, dans les couloirs de la conférence sur le climat qui se tenait en Pologne. Cette adolescente attire tous les regards avec ses longues nattes et son regard déterminé. Elle a 15 ans et à la tribune, elle dit que seuls les citoyens peuvent désormais sauver la planète.
Ça ne sert à rien de demander aux États de s'occuper de notre futur. Ils nous ont ignorés jusqu'ici et ils vont nous ignorer encore. Nous devons sauver ce que l'on peut encore sauver sur notre planète.
Greta Thunberg est autiste. Elle dit que c'est son super pouvoir, qu'être différent est un super pouvoir. Et du haut de ses 15 ans, elle initie un mouvement qui fait tache d'huile, en particulier en Suède, au Canada, en Australie. Faire la grève de l'école le vendredi, la militante devient un modèle au-delà des frontières, comme ici en Belgique.
C'est comme avoir rencontré mon héroïne. Je pense que Greta, elle parle pas beaucoup, mais ce qu'elle dit, c'est très fort. Comme elle disait, elle aime pas crier, il faut juste communiquer calmement et dire qu'on a peur.
Mais au même moment, Greta Thunberg est aussi décriée. C'est une coquille vide, dénoncent certains. Un produit marketing utilisé par les associations pour d'autres.
En 2019, Laure, cela fait un an qu'elle ne va plus à l'école et toute sa vie a été bouleversée.
Oui, elle voyage en train, elle ne prend jamais l'avion et chaque vendredi, elle reste assise devant le Parlement de son pays avec une pancarte. Si une dynamique peut venir des citoyens, elle comprend que rien ne peut se faire sans une volonté politique. Et en août 2019, elle arrive à New York après un voyage en voilier. Elle est accueillie en star et s'adresse au président Donald Trump, dont le pays s'est retiré de l'accord de Paris.
Mon message pour lui, c'est écouter la science, mais il ne le fait clairement pas. Les dirigeants du monde doivent sentir, dit-elle, que tous nos regards sont braqués sur eux.
Mais le temps passe et Greta Thunberg voit bien que l'accord de Paris signé en 2015 n'est pas respecté, que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, que la plupart des pays ne respectent pas leurs engagements. En 2019, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, le reconnaît.
Nous n'en faisons pas encore assez. C'est quelque chose qui implique aussi bien les transports, le chauffage, des chaudières au fioul, des chaudières à gaz. Voilà ce qui est en jeu.
Greta Thunberg a aujourd'hui 19 ans. Son nom a été proposé il y a 3 semaines pour le prix Nobel de la paix.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, la naissance prochaine d'un bébé gypaète barbu dans le Vercors. C'est un grand rapace et cela fait 100 ans qu'on attend ça dans la région.
Europe 1 Studio vous présente Inséparable, le premier podcast de Catherine Ney.
Pendant plus de 40 ans, j'ai arpenté les arcanes du pouvoir. Je vous invite à rentrer dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France. Chef d'État et première dame, président et premier ministre, je vous raconte les petites histoires qui sont l'assaisonnement de la grande histoire.
Inséparable par Catherine Ney, le podcast. Disponible sur le site et l'appli Europe 1 et sur toutes les plateformes.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon début de matinée sur Europe 1. Il est bientôt 5h44 et une belle histoire à présent. Celle d'une réintroduction réussie d'une espèce animale. Et quelle espèce en l'occurrence? Puisqu'il s'agit du gypaète barbu, l'un des plus grands rapaces d'Europe. Quelques années après son retour progressif à l'état sauvage, un couple de gypaètes barbus a pondu dans le massif du Vercors une première depuis près de 100 ans dans la région. Et l'œuf, Omblin, devrait éclore d'un jour à l'autre.
Bonjour Bruno Cuerva.
Bonjour.
Vous êtes garde de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour nous parler de cette excellente nouvelle pour la biodiversité en France et pour l'espèce. Alors, avez-vous une idée du moment où va naître ce bébé gypaète barbu?
On a une idée relativement précise parce qu'on a eu la chance d'être dans une période où on a vu les oiseaux passer de l'accouplement à une période de un peu différente d'échange d'oiseaux dans le nid, donc ce qui pour nous montre la ponte. Et en fait, comme l'espèce est relativement bien connue maintenant, entre ce moment de la ponte du 3 février et l'éclosion, il se passe autour de 55 jours. Et 55 jours, c'est la semaine prochaine.
J'ai parlé du bébé gypaète, mais savez-vous combien d'œufs il y a dans le nid?
Généralement, dans un nid de gypaète barbu, il y a 2 œufs, mais il n'y en a qu'un qui est sous l'attention des parents. Pour assurer un seul individu à l'envol, bon, on pense que c'est sans doute des nécessités liées à des apports alimentaires un peu limités. Il y a 2 œufs, mais il y a toujours qu'un poussin qui est surveillé et nourri par les adultes.
La localisation précise du nid est gardée top secret, hein.
Alors, c'est top secret, mais c'est une information qui est tellement exceptionnelle pour nous et pour la région qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent avec leurs lunettes, leurs jumelles pour déterminer l'endroit. Et bon, ils finissent par le trouver, mais enfin, on ne communique pas sur l'emplacement exact pour des raisons de tranquillité de l'espèce. C'est une espèce qui a besoin d'être dans des coins sauvages et on a peur que certains photographes mal intentionnés s'approchent un peu trop. Alors c'est dans la Drôme, dans la partie sud du Vercors, sur les immenses falaises de Glandas et du Cirque d'Archiane. Ce sont des falaises qui font à peu près 600 mètres de hauteur, entre 600 mètres et 1000 mètres de hauteur. Le gypaète barbu nichant tout le temps en falaise.
Il y a déjà eu des naissances dans les Pyrénées, dans les Alpes, mais pas dans cette région-ci, en tout cas pas depuis très très longtemps, hein.
Oui, tout à fait. On a eu, oui. C'est à la fois exceptionnel parce que sur le Vercors, ça fait quand même plus de 100 ans qu'on n'avait pas ce type d'événement, puisque c'est un événement. Et puis, c'est exceptionnel aussi parce que dans les Alpes, on est, quand on n'a pas plus de 25 pontes par an sur tout le massif des Alpes, hein, françaises. Donc, et puis aussi, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est, pour nous, c'est l'aboutissement de 12 ans de travail puisque notre opération de réintroduction de cette espèce a démarré en 2010. On attendait ça depuis pas mal de temps. Et puis, on va être papa dans, moi je vais être papa dans quelques jours, j'espère.
Donc, ce sont des oiseaux nés en captivité, ce couple-là en particulier, les autres aussi d'ailleurs, puisqu'ils ont été réintroduits, vous nous disiez.
Oui, tout à fait. En fait, tout ce programme de réintroduction est basé autour d'oiseaux qui sont nés en captivité ou dans des zoos, tout simplement, et qui nous sont fournis. En fait, on peut pas se permettre d'enlever des oisillons dans des nids en milieu sauvage pour les réintroduire. Ce serait un peu un non-sens. Voilà, d'autant que dans les Alpes, on a, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être 25 naissances et dans les Pyrénées, 45, en Corse, 4 ou 5. Donc, ce serait quand même serait incohérent de les récupérer en milieu sauvage.
Qu'a-t-il de si particulier ce gypaète barbu? Alors, c'est d'abord un très, très grand rapace, hein.
c'est un très grand rapace, hein, il mesure presque 3 mètres d'envergure, ce qui est quand même presque aussi grand qu'un vautour fauve, 1 mètre de plus qu'un aigle royal, et qui a la particularité de se nourrir d'os. Donc c'est assez étonnant, hein. Il passe après tout le monde, donc bien sûr il fait partie de ces charognards, c'est un oiseau qui est incapable de prédater, d'attaquer un mouton, d'attaquer une proie sauvage, et il passe après tous les autres, il passe quand les animaux sont découverts à la fonte des neiges, les bouquetins, les chamois, bon il y a les vautours fauves qui passent, il y a les renards qui viennent croquer un peu dedans, et le gypaète barbu, lui, se nourrit d'os, et il les avale, et ça lui suffit pour se nourrir. Et quand l'os est trop grand, trop gros à avaler, ben il les prend en l'air et il les relâche sur des rochers pour les casser. Ça casse assez facilement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il les avale. Mmh. Donc ça, c'est vraiment sa particularité. Ça a été l'emblème des Alpes pendant au siècle dernier, et petit à petit, il a disparu. C'est un oiseau grand, fin, qui a une barbe, une petite barbe assez étonnante. Je ne sais pas bien à quoi ça sert, mais enfin, il a une barbe. Et puis, il a des yeux qui peuvent devenir très, très rouges. Et puis, il a une couleur noire et blanche ou noire et rouge, suivant les individus, qui est quand même une couleur très caractéristique et qui est assez peu farouche, qu'on arrive à voir assez près des falaises ou dans les sommets. Les randonneurs peuvent le côtoyer assez facilement.
Merci beaucoup, Bruno Cuerva, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes garde de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Et donc, on va guetter cette naissance de ce bébé gypaète barbu dans quelques jours. Merci encore.
Aussi,
très bonne journée.
J'espère. Au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Allez, après avoir plané au-dessus du Vercors, on retrouve la terre ferme avec le journal permanent d'Alban Le Prince.
Et Vladimir Poutine utilisera-t-il des armes chimiques en Ukraine? La menace est prise très au sérieux par les pays réunis depuis hier pour participer au sommet de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Pour la première fois, Joe Biden, le président américain, a évoqué une réponse de l'OTAN si la Russie venait à y avoir recours. C'est dans ce contexte que l'Assemblée générale des Nations unies a voté hier à une majorité écrasante une motion exigeant l'arrêt immédiat de l'invasion russe en Ukraine. Parmi les pays qui ont voté contre, la Russie évidemment, mais aussi la Syrie et la Corée du Nord. La présidentielle est un peu plus de deux semaines du premier tour. Plus de 48 millions de Français se sont inscrits sur les listes électorales, chiffre communiqué par l'INSEE, ce qui représente 95% de la population éligible.
L'actualité est aussi musicale comme chaque vendredi matin.
Et pour nous tenir informés des dernières sorties, on accueille Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, bonjour Ambline, bonjour Julien.
Ce matin, Stéphanie, vous nous présentez le dernier projet du groupe de rock alternatif de Brian Molko.
Il y a déjà plus d'un quart de siècle, le guitariste et chanteur Brian Molko et le bassiste Stefan Holsdal s'amusaient à fracasser leurs guitares et triturer leurs jouets musicaux dans le salon de Brian à Deptforden en Angleterre. Aujourd'hui, composé du duo originel, c'est-à-dire sans le batteur Steve Forrest, le groupe Placebo est de retour avec son 8e album Never Let Me Go. Le premier single extrait de ce projet, c'est Beautiful James, publié il y a déjà quelques mois. Écoutez. Placebo, c'est le groupe de rock alternatif aux 13 millions d'albums vendus dans le monde qui officie depuis 1994. On les a notamment connus grâce à ce titre, Pure Morning, publié en 1998. Et puis parmi les immenses tubes de Placebo, il y a The Bitter End, sorti lui en 2003. Alors j'entends déjà poindre les sarcasmes de ceux qui considèrent que Placebo c'est un groupe pour rebelles écorchés vifs prépubères. Mais pour les autres, les millions de fans, 9 ans, c'est très long. Car il aura fallu attendre 9 longues années depuis Loud Like Love et avoir enfin ce nouvel album. Entre temps, bien sûr, il y a eu la tournée pour les 20 ans du groupe, mais les fans commençaient à trouver le temps très long. Un album qui sonne comme du Placebo, avec tout de même quelques titres aux arrangements électro qui proposent une nouvelle direction musicale comme sur Sad White Reggae.
I wanna sleep on the way down. So many miles away.
Brian Molko, c'est surtout cette voix singulière que vous entendez, une touche personnelle dans ses compositions qui font qu'en trois notes, on sait chez qui on est, sur un titre comme Twin Demons par exemple. Côté de groupes comme Skunk Anansie, Placebo a bercé toute une génération, nourrie au riff entêtant, mais aussi totalement fan de son leader Brian Molko. Avec son look androgyne et sa voix spécifique, Brian Molko a marqué les esprits et la colonne vertébrale de Placebo. Près de 30 ans après sa création, le groupe semble aujourd'hui plutôt assagi, mais n'a rien perdu de son talent et s'avère toujours aussi efficace pour produire des morceaux rock et contemporain.
Merci beaucoup Stéphanie Loire et on vous propose d'écouter en intégralité le dernier single de Placebo, Beautiful James, sur Europe 1.
Beautiful James, le titre phare du 8e et dernier album de Placebo qui sort aujourd'hui. Placebo que vous pourrez retrouver en concert au Zénith de Nancy le 10 novembre prochain, le lendemain à Paris-Bercy, le 11 donc, et le 14 à Rennes.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1, dans un instant la météo, le journal et un classement.
Classement des propositions en matière d'écologie des candidats à la présidentielle. Le RAC, le réseau Action Climat qui regroupe les principales ONG environnementales, a passé au crible les programmes des prétendants à l'Élysée. Et le bilan est sévère. Rares sont les postulants à trouver grâce aux yeux de ses experts. Emmanuel Macron, par exemple, obtient la pire des notes, tout comme Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. L'écologie n'est-elle que de gauche? Les candidats ont-ils saisi l'urgence de la situation climatique? Et puis ces programmes ne sont-ils pas d'ores et déjà caducs avec la guerre en Ukraine dont les conséquences énergétiques et alimentaires rebattent les cartes? Autant de questions qu'on va poser dans une dizaine de minutes à Zoé Lavocat, responsable climat et territoire du réseau Action Climat. Et puis juste après, Omblin, on écoutera religieusement votre partition.
Leur voix était très proche, ils partageaient le même succès planétaire, les mêmes combats, une amitié de plus de 30 ans malgré quelques turbulences.
Yeah.
George Michael et Elton John, un roman d'amitié dans 20 minutes. Elton John qui célèbre ses 75 ans aujourd'hui.
La météo avec Anissa Haddadi, beaucoup de soleil, mais attention, oui. la qualité de l'air n'est pas terrible.
Oui, vraiment pas terrible sur les Hauts-de-France, la région parisienne et l'Alsace. Dans ces trois régions, on va avoir effectivement une qualité de l'air très mauvaise. Alors si vous êtes sensible, il va falloir faire très attention aujourd'hui, parce qu'en fait, l'anticyclone qui nous protège et qui nous donne ce très beau temps depuis la semaine dernière, il se décale doucement vers les îles britanniques et donc du coup, il laisse une petite porte ouverte pour un léger petit air de nord-est. Et dans cette aire de nord-est, il y a de la pollution des usines des pays voisins. Donc voilà pourquoi sur les Hauts-de-France, la région parisienne et l'Alsace aujourd'hui, nous avons une mauvaise qualité de l'air. La semaine se termine en beauté, vous le disiez Julien, avec un franc soleil encore sur toutes les régions. C'est un petit peu plus couvert sur les Pyrénées, avec des entrées maritimes également sur le Roussillon. Cet après-midi, ça va se dégager. Et puis c'est du côté de la Vendée et des Landes que nous aurons quelques passages nuageux, mais inoffensifs, sans aucune goutte d'eau. Moins 3 à Montluçon ce matin, moins 2 en Avignon, moins 1 à Clermont-Ferrand, 2 degrés à Metz, 5 à Toulouse et Dijon, 7 pour Paris et 9 à Dunkerque. Cet après-midi, la douceur est de retour, encore une fois, avec 15 degrés à Perpignan, 17 à Saint-Brieuc et Bastia, 19 pour Paris et Ajaccio, 20 à Lyon et 22 la maximale pour Brive-la-Gaillarde.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon début de journée à tous. Vous écoutez Europe 1. Nous sommes le vendredi 25 mars. Et il est 6h. L'Ukraine à l'offensive. Après un mois de guerre, l'armée russe piétine et la résistance ukrainienne contre-attaquent, notamment près de la capitale. Les Russes qui ont aussi perdu des hauts gradés, une faille dans la stratégie du Kremlin qu'on vous explique dans un instant. L'adieu de la Corse à Ivan Colonna. Les obsèques du militant nationaliste auront lieu cet après-midi dans son village de Cargèse. Et puis, gérer un budget, ça s'apprend. C'est même l'objectif de la semaine pour l'éducation financière. Des banquiers s'invitent dans les classes de vos enfants. Déjà bien informés, vous l'entendrez.
Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté comme chaque matin par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. L'armée ukrainienne serait-elle en train de repousser l'ennemi? Depuis plusieurs jours, les Russes n'avancent plus et subissent même plusieurs contre-attaques des soldats ukrainiens. C'est le cas notamment à l'est de Kiev, où l'armée russe aurait reculé d'une trentaine de kilomètres selon le renseignement américain.
Un mois après le début de la guerre, le front est quasiment figé à cause notamment de revers tactiques de Moscou.
Carence logistique, problème d'approvisionnement et pertes humaines, oui, mais combien exactement? 3 000 à 15 000 soldats russes tués selon les sources, 500 seulement selon le Kremlin, qui a confirmé en revanche la mort de 2 généraux. Il serait même 6 selon Kiev. William Molinier, pourquoi l'armée russe perd-elle des hauts gradés au combat?
C'est le signe, nous dit un haut gradé, du dysfonctionnement de la chaîne de commandement. Les généraux russes sont contraints d'aller sur le terrain pour donner des ordres et s'assurer qu'ils sont bien compris. C'est aussi l'une des caractéristiques de la guerre de haute intensité. La bataille tue et à tous les grades. En 14, 18 et en 40, ce sont au total 55 généraux français qui sont morts au combat. Le général Wetkamp, ancien DRH de l'armée de terre, y voit aussi l'obligation de remobiliser les troupes un mois après plusieurs échecs tactiques.
Le moral doit être forcément un petit peu entamé. Et donc l'autorité, là on parle des généraux, doivent aller au contact. Et donc forcément, en se rapprochant de la zone des combats, il y a une plus grande vulnérabilité pour les postes de commandement qui sont évidemment à ce moment-là des cibles plus repérables. Et donc dès qu'il y a identification, ben, il y a tir d'artillerie, c'est la doctrine russe, mais ukrainienne bien évidemment.
William, est-ce que l'armée russe est en train de changer de stratégie, c'est-à-dire se replier pour mieux revenir?
Oui, selon nos informations, les services de renseignement occidentaux observent en ce moment des grandes manœuvres pour sécuriser les lignes arrières russes. Concrètement, ce sont des mouvements d'approvisionnement en carburant, des recharges de munitions, l'évacuation de blessés. En clair, l'armée russe se concentre sur les bombardements incessants des zones urbaines pour régénérer ses forces. Le dégel a commencé dans les grandes plaines de l'Est et plutôt que de le subir, Moscou veut en profiter. À Paris, en tout cas, on s'attend à ce que le Kremlin ordonne la relance dans quelques semaines d'une offensive massive en Ukraine.
Les explications de William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Arrêter la guerre, mais sans la faire, c'est la périlleuse équation qu'a tenté de résoudre l'OTAN réunie hier à Bruxelles.
Un sommet en présence de Joe Biden. Le président américain a promis une réponse de l'Alliance Atlantique en cas d'utilisation d'armes chimiques russes. Joe Biden qui souhaite aussi exclure la Russie de l'organisation du G20.
Ma réponse est oui, mais cela dépend des autres membres du G20. J'ai soulevé cette question aujourd'hui. J'ai évoqué la possibilité, même si je pense que cela n'est pas envisageable, si l'Indonésie et d'autres ne sont pas d'accord. Ensuite, nous devrions, à mon avis, demander à ce que l'Ukraine puisse assister ou au moins observer les réunions du G20.
Joe Biden au sommet de l'OTAN à Bruxelles, le président américain qui est aujourd'hui en Pologne avec un déplacement prévu à 80 km de la frontière ukrainienne.
Des drapeaux corses, des affiches avec le visage d'Ivan Colonna et des slogans hostiles à l'État. Le village de Kargez en Corse du Sud organise à 15h les obsèques de l'ancien détenu et militant nationaliste. Sur l'île, les drapeaux sont en berne. Une insulte à l'État français et à la famille Erignac pour le ministre de l'Intérieur. Commentaire de Gérald Darmanin, invité hier soir sur France 5.
6h passées de bientôt 4 minutes sur Europe 1, votre radio qui fait partie des 33 médias partenaires de l'opération SIDAction.
Un appel aux dons jusqu'à dimanche sur Internet ou en appelant le 110, des fonds pour faire avancer la recherche sur le VIH, un virus dont on ne guérit pas. 173 000 Français vivent même avec. Une vie maintenant quasi normale grâce à de meilleurs traitements. Alors 20 ans après les premières trithérapies, où en est-on exactement? L'éclairage de Yasmine Akatou.
Il y a 26 ans, la première trithérapie anti-VIH consistait à prendre pas moins de 20 comprimés par jour. Aujourd'hui, les traitements ont bien évolué, détaille Serawit Bruklandais, responsable du pôle recherche de SIDAction.
C'est une pilule par jour qui se présente avec 3 antirétroviraux pour pouvoir contrôler la multiplication du virus. Et depuis janvier, on a aussi des traitements injectables. Tous les 2 mois.
Des traitements moins lourds, plus simples à prendre durant toute une vie, puisqu'il n'est pas possible de guérir du VIH pour l'instant. En revanche, la recherche pourrait permettre à des malades d'être en rémission, de rendre le virus inoffensif.
Le virus, il constitue des cellules qu'on appelle des réservoirs, où le virus est dormant. La recherche actuelle, c'est d'essayer de mieux comprendre comment on peut cibler ces réservoirs-là, extraire le virus qui sont dans ces cellules, pour que les personnes arrivent à contrôler le virus de par leur système immunitaire.
Le VIH serait toujours présent, mais en quelque sorte endormi dans l'organisme. Les malades pourraient alors se passer de traitement.
Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
L'épidémie de Covid à présent recense plus de 110 000 cas quotidiens en moyenne, un chiffre qui pourrait doubler d'ici la fin du mois, selon l'Institut Pasteur.
Et parmi les nouveaux malades, Valérie Pécresse, la candidate de la droite à l'élection présidentielle, poursuivra donc sa campagne à distance. Près de 48 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales. 95% des adultes en âge de voter. Selon l'INSEE.
Arrivez-vous à gérer correctement votre budget, à faire des économies? Eh bien, tout ça s'apprend, et ce, dès l'école primaire.
Oui, et c'est la semaine de l'éducation financière, et à cette occasion, des banquiers se sont invités dans les classes de vos enfants pour acquérir de bons réflexes, surtout pour les achats sur Internet. Le reportage de Louise Salé dans une école parisienne.
Les élèves ont poussé les tables. Au centre de la salle, un grand plateau de jeu et des pions pour avancer sur des cases à condition de répondre aux questions.
Qu'est-ce qu'un chèque en bois?
C'est un faux chèque.
Maya Attic, directrice générale de la Fédération bancaire française, les corrige.
Donc ce n'est pas un faux chèque, parce que c'est un vrai chèque d'une vraie personne. Simplement, elle a fait un chèque et elle n'a pas l'argent sur son compte.
Sur certaines cases, les élèves rencontrent des mises en garde contre les arnaques sur le net.
J'ai reçu un mail qui me propose d'acheter les baskets dont je rêve que jusqu'à 23h ce soir. Quel est le risque?
Le risque, c'est qu'on n'ait pas les baskets et que ça soit de l'arnaque.
Ça peut être un virus.
Beaucoup de pirates, en ciblant des millions et des dizaines de millions de personnes, même si au final il n'y a que quelques centaines ou quelques milliers qui tombent dedans, ça suffit pour rentabiliser l'opération.
Attention aussi aux réseaux sociaux.
Ma meilleure amie ne trouve plus son portefeuille. Elle me demande sur un réseau social de lui donner le numéro de la carte bancaire de mes parents.
On ne fait rien parce qu'il peut y avoir beaucoup d'argent qui se fait pirater.
Là, c'est un autre mode de fraude. C'est de jouer sur votre envie d'aider. Donc bravo, bonne réponse, bon réflexe.
Les réponses ont été prudentes dans cette classe. En France, un tiers des 8-14 ans affirment aujourd'hui avoir déjà reçu un message d'arnaque sur un réseau social.
Le reportage de Louis Salet.
Ils sont bluffants. Hein.
Ouais, une formation qui pourrait aussi servir à certains adultes, je pense. Pourrait faire la semaine de l'éducation financière pour adultes, pourquoi pas.
C'est ce que me dit tous les jours ma banquière.
Voilà.
Merci beaucoup, okay, pour ce journal.
6h07, les sports.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange, et avec un séisme sur la planète foot.
Vous entendez les sifflets, hein. L'Italie, championne d'Europe en titre, n'ira pas à la Coupe du Monde au Qatar. La Squadra Azzurra a été battue hier soir à Palerme par la modeste Macédoine du Nord, 1-0. C'est le deuxième mondial de suite que les Italiens vont rater après 2018. De leur côté, les Macédoniens joueront leur ticket pour le Qatar face au Portugal. Des Portugais tombeurs de la Turquie, 3-1. Ça passe également pour le Pays de Galles qui a battu l'Autriche et la Suède, vainqueur de la République tchèque.
Ce soir, place au bleu, Martin.
Oui, match amical contre la Côte d'Ivoire à Marseille. Le stade Vélodrome qui rappelle d'excellents souvenirs aux joueurs de Didier Deschamps. La dernière fois qu'ils y ont joué, ils ont terrassé l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016. Le capitaine Hugo Lloris y était.
D'un des matchs références de ces 10 dernières années en bleu. J'ai même envie de qualifier ce match de perfection parce que c'était la grande Allemagne. Ça reste un souvenir très important dans ma carrière des bleus.
Coup d'envoi ce soir à 21h15, à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Et puis il n'y a pas que les bleus ce week-end. Demain, le stade de Bondoufle dans l'Essonne accueille une sacrée affiche. Guadeloupe-Martinique, ambiance garantie. Et un match à part selon le capitaine guadeloupéen Anthony Baron.
C'est toujours un match particulier, hein, parce que c'est les îles sœurs, on va dire. Donc, après, on sait qu'il y aura du monde en région parisienne. Donc, c'est vrai qu'on attend beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de Martiniquais. Ce sera une grande fête. Et pour ça, on espère gagner ce match.
Anthony Baron chez nos confrères de Radio Caraïbes, Guadeloupe-Martinique, c'est à 15h demain.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Les basketteurs français qui remportent leur bras de fer, le tour préliminaire des JO 2024 n'aura pas lieu au parc des expositions de la Porte de Versailles. Du patinage avec l'entrée en lice aujourd'hui de nos champions olympiques de danse sur glace, Papadakis Cizeron aux Mondiaux de Montpellier. Le couple vise un 5e titre mondial à domicile. Et puis un mot de cyclisme avec le début de la semaine sainte des Flandriennes. 4 courses au milieu des monts flamands qui mènent jusqu'au Tour des Flandres. 2e monument de la saison, ça sera dimanche prochain. Et aujourd'hui, répétition générale sur le Grand Prix E3. La bière va couler à flot.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va parler écologie. Le réseau Action Climat a analysé les programmes des candidats à la présidentielle et le constat est sévère. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11. Ce vendredi, journée mondiale d'action des jeunes pour le climat. À cette occasion, Julien, votre invité, est la responsable climat et territoire du RAC.
Le réseau Action Climat qui regroupe les principales ONG environnementales. Bonjour Zoé Lavocat.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin à 16 jours seulement du premier tour de la présidentielle. Une campagne où il a rarement été question d'écologie. C'est pourquoi je tenais à ce que l'on vous entende. Vous avez étudié attentivement les programmes des 8 principaux candidats. Vous les avez notés selon vos critères. On va découvrir le classement dans un instant. Mais avant cette question, est-ce que tout ce travail n'est pas d'ores et déjà caduque avec la guerre en Ukraine et ses conséquences énergétiques alimentaires qui poussent le gouvernement, par exemple, à envisager de retarder la fermeture de nos dernières centrales à charbon ou encore l'Union européenne à revoir à la baisse sa politique agricole. Qu'en pensez-vous ?
Alors effectivement, actuellement, la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine a un lien lié au climat. La première chose, c'est de rappeler que le gaz fossile, le pétrole, le charbon, actuellement représentent non seulement une menace pour le climat, mais aussi rend l'Europe extrêmement vulnérable dans le cadre de cette crise. Donc il y a un lien entre les deux questions, lié à cette question, cette nécessité de sortir des énergies fossiles. La deuxième chose, le lien entre cette guerre et le climat, c'est aussi de dire que la question qui est posée aujourd'hui, c'est effectivement celle de la souveraineté alimentaire, celle de la souveraineté énergétique. Et c'est une question qui doit être posée dans le cadre de l'instabilité croissante finalement de nos États, instabilité qui va augmenter avec le dérèglement climatique. Donc finalement, la question, c'est aujourd'hui, quelle énergie on veut produire, quelle alimentation on veut produire pour faire face à cette instabilité et pour faire face aux différentes crises, notamment climatiques, qui sont devant nous.
Et justement, comment arriver à parler d'écologie dans ce contexte où la priorité des Français aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, c'est le prix du litre de gazole ou de leur prochaine facture de gaz ?
Effectivement, la première chose, c'est de voir la question climatique non pas comme quelque chose d'à part, mais relié à la question évidemment sociale. L'objectif aujourd'hui n'est pas de porter des mesures ad hoc qui vont être imposées, mais vraiment de les penser en ciblant en priorité les ménages les plus précaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de remarquer quand même qu'il y a un décalage entre ce qui se passe dans cette campagne présidentielle et les attentes des citoyens et citoyennes. On l'a vu la semaine dernière lors d'une marche intitulée Look Up, 80 000 personnes dans les rues, 135 marches. Aujourd'hui, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a une marche climat qui va mobiliser les jeunes aussi. Alors que, donc voilà, on voit cette mobilisation citoyenne, mais pourtant, le climat ne représente que 3,24% du temps médiatique au 16 mars. Donc, il y a un décalage, en fait, entre l'importance, la prégnance de la question climatique pour les citoyens citoyennes
et les attentes des Français.
La faible place. Exactement.
Venons-en à votre étude concernant les programmes, justement, pour la présidentielle. Vous les avez notés avec un code couleur. Expliquez-nous.
Oui, alors, on a analysé les programmes des 8 principaux candidats au prisme de 37 propositions qui elles-mêmes sont issues de 7 axes. Donc on a choisi ces propositions en fonction des secteurs les plus émetteurs, donc le transport, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment et l'énergie, mais aussi en fonction des leviers d'action importants. Donc on a aussi rajouté des mesures sur l'international et les financements publics du gouvernement.
Et alors, quels sont les candidats qui s'en sortent le mieux à vos yeux ?
Alors avant tout, il faut savoir que le résultat nous surprend et nous désole, parce que très peu de candidats en fait ont eu des propositions efficaces. Tous les candidats en fait parlent du climat, mais seulement deux candidats se démarquent vraiment. Ce sont Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui en fait se démarquent parce qu'ils ont des programmes complets. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste porter une mesure pour la rénovation, par exemple, des logements, mais qu'ils vont proposer derrière un certain nombre de leviers, de financements. Ils vont cibler en priorité les ménages les plus précaires. Donc, on est vraiment sur un plan d'action assez complet. Mmh. Là où les autres candidats, notamment donc Hidalgo, qui a donc 6 feux orange et un feu rouge, qui manque clairement de précision et de clarté. Idem pour celui de Fabien Roussel, qui a un programme très incomplet, notamment sur certains sujets comme les questions énergétiques et sur la question de l'alimentation et de la baisse de la consommation de viande.
Oui.
Et enfin, les programmes...
Alors on va y venir aux autres programmes. Oui. Je vous interromps simplement. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, qui ont donc des feux verts, pas que, mais ils en ont certains. Ça veut dire qu'une écologie de droite est impossible à vos yeux ?
La question, c'est... On a décrypté tous les programmes. Et en fait, comme je disais, tous les programmes portent des questions climatiques. Et on fait cet exercice pas uniquement sur les élections présidentielles, mais aussi sur les élections régionales et aussi sur les élections municipales. C'est une certitude que là, on a particulièrement un différentiel entre des candidats qui ont un programme complet et d'autres candidats qui ne portent pas grand-chose, rien, voire des propositions néfastes.
C'est-à-dire alors justement, incomplet, parcellaire, voilà les commentaires que vous réservez au programme d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à son programme ?
Oui, bien sûr. Alors la première chose à noter, c'est que il y a déjà un bilan de Macron, donc un quinquennat qui a été un quinquennat de grands discours avec quelques petites actions, mais aussi des reculs importants, notamment par exemple pour l'aérien. Hein. Donc on a déjà cette première chose. La deuxième chose, c'est que dans son programme, alors qu'en 2017, potentiellement, on avait des choses intéressantes, par exemple, sur la rénovation, dans ce programme-là, il n'y a rien. À part quelques propositions symboliques et floues sur la rénovation, on n'a rien sur l'accompagnement des ménages, rien sur la formation, par exemple. Mmh. On va aussi avoir une évocation, par exemple, du train, mais très peu, même rien sur les transports collectifs, sur le vélo. On a une vision de l'agriculture qui est très technologique, axée sur la robotique. La question, c'est est-ce que c'est ça, finalement, l'avenir qu'on veut ? Est-ce que c'est ça, le peu de moyens que sont prévus pour lutter face à l'ampleur de la crise climatique et sociale actuellement ?
Et je note que vous mettez Emmanuel Macron et Valérie Pécresse dans le même panier. Vous avez ce commentaire, leurs programmes sont très proches, les différences sont dans les non-dits. En fait, vous donnez raison à la candidate LR quand elle affirme que le président lui a emprunté l'essentiel de ses propositions ?
Alors, en fait, on retrouve dans les deux candidats ce côté technologie et robotique. À tout prix. Voilà, donc on va retrouver par exemple chez Pécresse comme chez Macron un côté développement des véhicules électriques, mais rien du coup sur l'accompagnement des personnes à changer de mobilité. Mmh. Donc on va avoir des similitudes dans cette vision très technologique qui ne suffit pas en fait pour mener une transition ambitieuse. Donc effectivement, on a des programmes qui en fait sont assez similaires dans des visions vraiment parcellaires et vraiment lacunaires.
7 feux rouges, c'est la note que vous donnez également au programme de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Programme que vous jugez peu précis et incomplet, c'est ça ?
Oui, complètement. Voire même, en fait, ce sont des candidats qui ne mettent clairement pas, en fait, la lutte contre le changement climatique en priorité. On va avoir des candidats aussi qui mettent des mesures, comme je disais, qui sont néfastes. C'est-à-dire que non seulement ça ne va pas dans le bon sens, mais ça, en plus, implique un recul dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, on va avoir rien sur les questions de solidarité internationale. On va avoir des mesures, par exemple, qui nous emmènent vers revenir à la limitation d'une vitesse à 50 km/h.
En ville, oui.
Consommer. Voilà. On va avoir, par exemple, des mesures dans les programmes de Zemmour et Le Pen qui nous proposent d'arrêter non seulement les projets éoliens, mais aussi de démanteler le parc éolien existant. Donc c'est vraiment une lutte contre les ENR, alors qu'aujourd'hui ces projets sont plus que nécessaires. Voilà, on va avoir des mesures d'accompagnement du tout voiture. Donc vraiment des programmes qui sont néfastes aujourd'hui.
Merci beaucoup Zoé, l'avocat, d'avoir répondu à nos questions ce matin, d'avoir détaillé tous ces programmes dont les candidats nous parlent, mais pas beaucoup, faut bien le dire, en tout cas au sujet de l'écologie. Je rappelle que vous êtes la responsable climat et territoire du RAC, le réseau Action Climat. À bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Europe Matin.
Chez Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
En Corse, les funérailles d'Ivan Colonna prévues cet après-midi à 15h à Cargèse. Hier, Gérald Darmanin a réagi à la mise en berne des drapeaux sur l'île de Beauté. Après sa mort, c'est une sorte d'insulte à l'État français et à la famille Erignac, dénonce le ministre de l'Intérieur. La guerre en Ukraine, et les Occidentaux ont jugé hier très crédible le risque d'une attaque chimique de la part de la Russie qui donnerait lieu à une réponse de l'OTAN, a promis Joe Biden, le président américain. Et puis du football, et pour la deuxième fois de suite, l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde. Les champions d'Europe se sont fait sortir hier soir en qualification par la Macédoine du Nord 1-0.
On termine cette semaine avec votre partition, Omeline. Ils font partie des plus grandes stars de la pop. Ils ont toujours su faire rayonner la musique britannique dans le monde, et ce, dès le début de leur carrière. Deux artistes excentriques, liés par une solide amitié malgré les tempêtes. Il s'agit d'Elton John et de George Michael.
Ils s'admirent et se respectent, Julien, et George Michael n'a jamais caché l'influence d'Elton John sur sa musique lors de ses débuts en solo.
Cette amitié entre les deux artistes va de soi quand on sait qu'ils fréquentent les mêmes cercles.
Ils sont tous les deux très proches de la princesse Diana et de Freddie Mercury. Engagés ensemble dans la lutte contre le sida, George Michael est d'ailleurs devenu l'un des premiers parrains de l'association d'Elton John quelques semaines après la disparition du leader de Queen.
Elton John et George Michael se rencontrent au début des années 80 et le courant passe immédiatement.
Elton John raconte, on était tous les deux dans une voiture du côté de Hyde Park à écouter sur une cassette « Wake me up before you go go ». Je me suis dit que je n'avais jamais rien écouté qui me rappelle autant le son de la Motown.
C'est en 1985 qu'ils chantent ensemble pour la première fois « Don't let the sun go down on me ».
L'un des moments les plus iconiques du Live Aid, le concert organisé au profit de la lutte contre la famine qui ravage l'Éthiopie. À l'origine, le morceau est extrait de l'album Caribou d'Elton John, sorti 10 ans plus tôt. Les deux ennemis prendront ensuite l'habitude d'interpréter la chanson ensemble.
La relation entre les deux chanteurs n'a cependant pas été de tout repos.
Ils ont deux personnalités plutôt imposantes, des égos affirmés, des vies agitées. Alors forcément, ça fait des étincelles. Au début des années 2000, lorsque les problèmes de drogue de George Michael font la une des tabloïds, Elton John essaye de le convaincre de suivre une cure de désintoxication, étant déjà passé par là. Une dispute éclate et les voilà tous les deux qui règlent leur compte par médias interposés. Ils vont mettre 7 ans à se retrouver. En 2011, Elton John fait le premier pas en invitant son ami à son gala caritatif annuel. Des retrouvailles publiques autour d'une nouvelle performance live de Don't Let the Sun Go Down on Me. Le stade de Wembley en transe en 1991, chacun sur un côté de la scène, hissé sur une estrade. George Michael, veste bleu roi, lunettes de soleil et anneau à l'oreille, invité par Elton John, une casquette sur la tête, arborant un pantalon à motif doré. C'est magnifique, Sir Elton John, qui aujourd'hui fête ses 75 ans. Ses deux ultimes concerts en France auront lieu les 11 et 12 juin à la Défense Arena à Paris.
Ultime, il nous faut une coupe depuis 10 ans.
Normalement, ce sont les derniers.
Ah, ouais. Bon, merci beaucoup, Omblin, vous restez avec nous. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko.